France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Si vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On n'a pas tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
L'intransigeance artistique face aux puissances qui entravent sa vision. Bref, l'art face à la complexité du réel, ce pourrait être un beau sujet de philo au bac. C'est le nôtre ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
1982, François Mitterrand lance un concours d'architecture anonyme pour la construction d'un édifice emblématique à La Défense. Un Danois inconnu l'emporte. Un gagnant qui finira par perdre. Bonjour Stéphane de Moustier.
Bonjour.
Auteur de ce film passionnant, L'inconnu de la Grande Arche, il s'appelait Johann Otto von Spreckelsen, un homme, un croquis génial, seul face à la force du collectif. Cette histoire romanesque est racontée dans un livre tout aussi passionnant, La Grande Arche, le vôtre. Bonjour Laurence Cosset.
Bonjour.
Un roman enquête sur un destin tragique entre l'art et la technique. Elle l'a approché de près, ce président qui, sur la seule foi d'un dessin, donnera toute sa confiance à l'architecte. Bonjour Laure Adler.
Bonjour.
Conseillère à la culture de François Mitterrand de 89 à 93. À l'Élysée, où dites-vous, vous avez appris entre autres la complexité et la fragilité du pouvoir. L'inconnu de la Grande Arche sur nos écrans mercredi prochain. Enfin, les sorties de ce mercredi, un poète, un étranger ou une vie ordinaire. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Johann Otto von Spreckelsen.
Inconnu au bataillon.
Subilon, vous nous en dites plus sur notre lauréat ?
Alors, il s'appelle Johann Otto von Spreckelsen. Il est né au Danemark en 1929. Il a présenté son projet sous son nom propre et non avec une agence. Et c'est tout ce que j'ai ici.
Appelez le lauréat pour que je puisse le féliciter.
Le lauréat est injoignable, il est à la pêche avec sa femme, ce Danois inconnu en France, a remporté sur un croquis le concours d'architecture lancé par François Mitterrand en 1982 pour la construction d'un édifice à la Défense dans l'axe majeur de Paris, du Louvre à l'Arc de Triomphe, un grand cube de vide, un cube de marbre et un cube transformé en cadre. À partir de là, les ennuis vont commencer, une histoire folle racontée dans votre livre, Laurence Cosset, adapté par vous, Stéphane de Moustier. L'architecture vous passionne, Stéphane, pour l'avoir beaucoup filmée avant de réaliser vos fictions.
Oui, c'est-à-dire que quand j'essayais de devenir réalisateur pour gagner ma vie pendant longtemps, pendant un peu plus de 10 ans, j'ai fait des films d'architecture avec grand plaisir, donc sans être un spécialiste, mais de fil en aiguille, en spécialisant tout de même malgré moi et en me passionnant pour ça. Et c'est vrai que pour tout réalisateur, l'architecture, ça pose aussi des questions esthétiques, des questions de rapport à l'espace qui sont passionnantes. Et parler d'architecture, c'est très vite parler de politique. Et donc, c'est en fait une affaire collective, c'est pas du tout une affaire de spécialiste.
Et c'est proche du cinéma, parce que d'un projet qui naît dans la tête d'un auteur ou d'une autrice, tout d'un coup, il y a une collectivité qui va être sur un tournage et qui va peut-être le transformer.
Oui, oui, il y a ça en commun, qu'on part d'une idée, puis après, il faut se confronter au réel pour que cette idée voie le jour.
Ouais.
Et que.
Et aux financeurs.
Et qu'on fait ça, voilà, on se heurte à des limites matérielles, financières, etc., comme un architecte. Et puis, surtout, c'est des œuvres collectives. Ce qui est passionnant, mais ce qui peut aussi, pour certains, être une entrave ou une souffrance, mais qui peut aussi être un magnifique stimulant.
Avec ce film, vous tentez de percer le mystère, celui de cet homme danois, donc propulsé dans le pouvoir et l'administration française, le focus sur l'homme. J'imagine, François, Laurence Cosset a dû vous passionner, non, sur la personnalité de cet homme qui débarque en France.
C'était mon sujet au départ, c'était ce qui m'a intéressé. J'aurais voulu appeler ce livre « Mort d'un architecte ». Bon, vous connaissez la réaction des éditeurs quand on leur propose le mot « mort » en couverture, ils vous disent « c'est non ». Mais c'est ça le sujet, c'était ça mon sujet. Et assez vite, pendant l'enquête qui a été très longue, je voulais depuis longtemps écrire un roman assis sur une enquête. Là, j'avais trouvé un sujet qui n'était pas encore vraiment exploité, donc j'ai fait 2 ans d'enquête. Et pendant cette enquête, j'ai découvert tout ce qui s'était passé, tout le contexte.
Oui.
Et on ne peut pas parler de cette histoire individuelle sans parler du contexte, qui est extrêmement complexe. Donc j'ai dû défricher, essayer de comprendre, de clarifier, d'ordonner un peu.
Qui ne vous a pas rendu folle, mais presque, hein, dans un moment du livre, vous dites que cette enquête est tellement énorme. Il y a tellement de participants, il y a tellement de témoignages.
Oui, ça ne m'a pas du tout rendu folle, ça m'a passionné. J'aurais pu enquêter 10 ans. Je me suis dit, je ne vais pas écrire un livre de 2000 pages, donc je me suis arrêtée. Non, c'était passionnant. Ça a l'air très austère. Hein. Pas mal de gens me disent... Pour entrer dans le livre, il faut vaincre une espèce de préjugé, c'est une histoire de construction, d'établissement public, de pouvoir, etc. Mais en fait, c'est très humain dans la mesure où c'est très très conflictuel, il y a des passions en jeu.
Des personnages qu'un scénariste n'aurait pu inventer, et notamment cet architecte avec ses chaussures si particulières.
Oui, alors oui, il a beaucoup intrigué. D'abord, il était extrêmement beau, il faut quand même le dire, c'est un homme qui avait un vrai charisme, une élégance.
Un peu à la Gary Cooper.
Si on veut, en blond, ouais. Hein, entre la noix.
Je pense à ça à cause du film Le Rebelle, dans lequel Gary Cooper incarne un architecte.
Et puis, assez vite, les protagonistes se sont aperçus que derrière cette façade si aimable, il y avait un homme extraordinairement rigide. Alors, on pourrait en parler des heures. Ce que je dirais simplement, c'est que quand il arrive en France, il est bardé de préjugés. Mmh. Qui sont les préjugés de tous les gens du Nord pour les gens du Sud, en l'occurrence de tous les Scandinaves pour les pays latins. Mmh. Des préjugés terribles. Hein. Ouais. Quand il gagne le concours, on lui dit là-bas, mais tu vas travailler avec ces gens-là, mais tu vas voir, tu vas te faire rouler. Ils sont baratineurs, ils préfèrent un bon mot à la réalité, etc. Et il arrive absolument terrifié. Donc il est... En un mot, si vous voulez, il se trouve pris dans un étau psychique. D'une part, le concours l'a parachuté maître d'œuvre, c'est-à-dire patron de la construction, ce qu'il n'est pas capable de faire. Et d'autre part, il est terrifié à l'idée de se faire voler son projet, dénaturer son projet.
L'arrivée de François Mitterrand au pouvoir correspond à une vague d'optimisme, d'espoir, et ce projet de la Défense s'inscrit donc dans cette vague. La toute-puissance publique de l'époque est le grand dessein mitterrandien. De mes septennats, disait-il, subsistera des bâtiments qui marqueront Paris à tout jamais. Ça, vous l'avez entendu, Laure Adler, de la part de François Mitterrand ?
Non seulement je l'ai entendu, mais je l'ai vécu.
Ouais.
C'est-à-dire que, de temps en temps, d'ailleurs, ça fait référence à une scène de votre film, de temps en temps, Mitterrand se promenait soit à pied, soit en voiture, et demandait à son conseiller culture de l'accompagner pour aller voir ses bâtiments. Et c'était quelque chose qui lui donnait un sentiment de plénitude, de complétude et de peut-être d'incarnation d'un pouvoir qu'il avait réellement, symboliquement aussi, mais en même temps ce pouvoir lui échappait tout le temps et il n'arrêtait pas de dire à ses conseillers voilà, le pouvoir c'est pas seulement de décider, c'est de faire en sorte que les choses se concrétisent. Ce que j'ai décidé, si ça ne se concrétise pas, ce n'est pas ma définition du pouvoir. Tandis qu'avec la politique des grands travaux et la grande arche de la défense, il avait un sentiment qu'il avait réussi quelque chose et que ce quelque chose allait continuer par-delà sa propre disparition.
D'où cette scène que vous évoquiez, Stéphane de Moustier, que vous avez repris dans le livre, qui est une scène réelle. Mitterrand part de l'Élysée à pied, comme il le faisait parfois avec vous, Laure, avec Sprekelsen, pour regarder la perspective sur les Champs-Élysées. On écoute.
Vous comprenez, je suis seul comptable de la perspective devant la nation. Je dois prendre toutes les précautions que ma responsabilité exige.
Mais le cube n'est pas élevé... Il respectera le grand équilibre. Vous allez voir, la simulation, tout est très clair. Voici le cube, monsieur le président. Ce que vous voyez, c'est la partie haute du bâtiment. Je vous rappelle que le cube sera ouvert.
C'est très bien.
Et la perspective est respectée.
C'est vraiment très bien, mais c'est bleu.
Oui, c'est bleu.
J'aurais préféré que ce soit rose.
Ah, quand le soleil se couche, ce sera rose.
Et je peux voir?
Oui, bien sûr. Ce soir, si vous voulez.
Deux égaux face à face, dites-vous Stéphane de Moustier, chacun voit dans l'autre son propre génie.
Oui, bah, c'est vrai qu'il y a, il y a vraiment la rencontre du président bâtisseur, du monarque bâtisseur ou du mécène et de son architecte. Je pense qu'il y avait une admiration ou une fascination réciproque. Cette scène là qu'on vient d'entendre, c'était un temps fort du tournage aussi, parce que les voitures qu'on entend, ce sont des voitures d'époque. On a réellement pu tourner sur les Champs-Élysées.
Oui, dimanche matin, vous avez pris 3 heures.
C'était un vrai bonheur, voilà. Ouais. En 3 heures, un dimanche matin, accès à un tronçon des Champs-Élysées, et on a pu tourner cette scène. Pour moi, c'était essentiel qu'à un moment donné, dans le film, ce fameux axe royal dont on parle, qui part donc du Louvre, qui traverse l'Arc de Triomphe et qui continue vers l'ouest, il fallait que physiquement on puisse le voir, qu'on puisse l'éprouver, parce que le cinéma, à un moment, si on ne voit pas les choses, on les comprend pas. On peut pas les saisir, et donc il y avait pas d'autre solution que d'aller sur les Champs-Élysées pour tourner cette scène. Et on sent une forme aussi d'humour auquel je tenais, c'est-à-dire que ce projet, il est totalement iconoclaste, il est démesuré. Oui. Donc inévitablement, il y a quelque chose d'ubuesque là-dedans. Ils ont voulu poser un cube à un endroit où c'était quasiment impossible de bâtir, parce qu'il y avait des réseaux, il y avait des autoroutes, il y avait une ligne de RER. Enfin, c'était très très compliqué. Ce cube a une portée délirante. On pourrait y mettre ça fait plus de 100 mètres de hauteur. Oui. Donc c'était un défi de construction immense, et donc inévitablement, c'est notre condition à tous, on fait de notre mieux, mais on se prend tout le temps les pieds dans le tapis. Là, le projet est tellement grand qu'ils se prennent collectivement les pieds dans le tapis, et ça crée des frictions, des tensions qui sont parfois comiques.
Laurence Cossé, est-ce que ce qui a trompé Sprengel-Sen, c'est pas sa relation particulièrement privilégiée avec François Mitterrand? Comme si il traitait avec le roi, et que derrière, il se fichait de la vie des autres, quoi.
C'est un point fondamental dans l'histoire, mais je retournerai un peu la question. Est-ce que le problème, ou la source de toutes les difficultés, pour employer un euphémisme, que ce projet a connu, n'est pas précisément l'excès d'immission de François Mitterrand dans l'affaire? Il faut quand même savoir que le règlement du concours était une véritable anomalie par rapport au règlement des grands concours à l'époque. Le règlement prévoyait que le jury prestigieux international parfaitement composé, choisirait 4 projets, parmi lesquels le président de la République française choisirait le projet gagnant. Oui. Et ça, si vous voulez, ça les a horrifiés, les jurés. Il y a eu des menaces de démission. Ils se sont dit, mais attendez, on peut faire le boulot jusqu'au bout. Oui. On leur a dit, non, c'est comme ça. Mais vous pouvez classer les projets. Non, ils ont dit, est-ce qu'on peut classer les projets? On leur a dit, ah non, si vous faites 4-3-2-1, c'est trop facile. Alors, ils ont obtenu de classer les projets en 2 catégories. François Mitterrand a fait faire 4 maquettes dans le Grand Salon de l'Élysée. Il en a fait rajouter une 5e parce qu'elle lui plaisait, parmi les 424 autres projets. Et puis, il a passé 6 semaines à hésiter beaucoup, avec Lyon par-dessus son épaule, qu'il faisait toujours revenir vers l'Arche. Oui. Et c'est lui qui a décidé. Oui. Et ceci, c'est déjà fondamental, parce que Sprengel-Sen le sait.
Le sait, bien sûr.
Sprengel-Sen sait que c'est le choix du président. Oui. Et ensuite, chaque fois qu'il aura un problème, il va voir le président et exactement, il lui dit « on m'embête ». Mais si ça n'était que ça, à toutes les étapes de la construction, le président est consulté, et quand il n'est pas consulté, demande à intervenir. Il choisit les matériaux. Il faut quand même voir, c'est insensé.
Je voudrais vous faire réagir, Laure Adler, sur une phrase qu'écrit Laurence Cossé dans son livre. Mitterrand ne disait jamais « je veux ». Il fallait organiser une discussion aboutissant à la solution préférée par lui, sans qu'il ait à exprimer cette préférence. C'est vrai ?
Je dirais que la procédure qui a été adoptée par l'Élysée autour du projet de l'Arche de la Défense est une procédure qui a été adoptée pour tous les autres grands travaux. C'est-à-dire que c'était toujours la même mécanique. D'abord, je ne vais pas défendre à tout prix Mitterrand, mais je vais quand même souligner que c'est le seul président de la République, de la Ve République, qui a voulu inscrire dans le tissu urbain de Paris et aussi de certaines villes de province des nouveaux bâtiments. Et je trouve qu'on est dans une situation où, sans arrêt, on est dans le conservatisme architectural et on a l'impression que dès qu'un bâtiment surgit dans un tissu urbain, on crie au scandale. Donc, il a érigé sa politique des grands travaux. Il a nommé un secrétaire d'État. Ça me plaît de dire son nom parce qu'il a complètement disparu de l'histoire de la Ve République, mais c'était un type extraordinaire qui s'appelait Émile Biasini et qui a tenu en main la politique personnelle de François Mitterrand, car c'était un vœu personnel en tant que président que de s'inscrire architecturalement au-delà de sa propre mort. Donc à chaque fois, comme c'est lui qui avait décidé, aujourd'hui avec le recul du temps, je ne considère pas qu'il faisait un abus démocratique en choisissant in fine, après avoir fait expertiser par les plus grands architectes internationaux les différents projets. Par contre, il hésitait. Moi, j'ai vécu des longs mois avec, dans la grande salle de l'Élysée, les projets architecturaux de la pyramide de Peille, de la BNF qui a été gagnée ensuite par Dominique Perrault, etc. etc. Il allait très souvent regarder ces projets et y demander à des proches ou à des moins proches, architectes ou pas d'ailleurs, c'était très intéressant, de venir voir les projets. Bon, c'est lui qui avait décidé ça, c'est lui qui décidait. Quelquefois, il a fait d'énormes conneries, et on connaît l'histoire de la connerie, de l'histoire de l'Opéra Bastille, où il s'est fait abuser parce qu'il a cru que c'était un grand architecte, mais non, c'était pas un grand architecte. Et quand on va à l'Opéra Bastille, on voit bien ce qu'il en est. Voilà. Vous considérez que c'était un abus de pouvoir, vous, Laurence Cossé ?
Je considère que lorsqu'un... Oui, vous avez raison, vous répondez un peu à côté. C'est formidable d'avoir eu cette espèce de volonté princière de construire des grands monuments. La France, à l'époque... La France est toujours riche, mais les caisses de l'État, à l'époque, étaient pleines. Et c'est bien de les avoir employées à ça, bien que très vite...
Heureux temps.
Heureux temps. Début, quand même, des budgets structurellement déficitaire, quand même. Bon, c'est une autre, c'est un autre
débat.
Non, ce qui est très grave, c'est lorsque le président de la République, le chef d'État, prend des décisions qui sont contraires aux avis des experts. Par exemple, le choix de ne pas traiter le marbre.
On en parlera.
Mais si vous voulez, c'est insensé. Insensé. Et pour les gens qui ne sont pas français, parce que tous les Français trouvent ça très normal, c'est absolument invraisemblable.
Ouais. Pour revenir, puisque c'est la figure centrale, puisque c'est du cinéma et c'est un film de Johann Otto von Spreckelsen, appelé Spreck pour les intimes, vous l'appelez Spreck dans votre livre. D'abord, c'est un grand acteur pour l'incarner. On prononce comme ça, Claes Bang.
Ouais, c'est Claes Bang qu'on a vu dans The Square. Notamment. Oui. Je pensais qu'il était suédois parce que à cause du Square. En fait, il est danois. Et c'est vrai que c'était une aubaine. Quand je l'ai rencontré, j'ai constaté qu'il était immense. C'est un acteur extrêmement grand.
Comme Spreckelsen.
Et je me suis dit que c'était une aubaine pour le film parce que c'est comme l'histoire d'un type qui arrive jamais à tout à fait rencontrer ses interlocuteurs français.
Qui est tout le temps en décalage avec eux.
Lui, physiquement, il porte ça. Et puis, on a parlé tout à l'heure de ces fameuses sandales. Moi, tous ceux qui l'ont côtoyé, et puis dans le livre évidemment c'est évoqué, parlent de ses chaussures. Alors est-ce que c'était des sabots, est-ce que c'était des sandales, enfin bref, mais ses chaussures avaient l'air invraisemblables. Mais quand vous prenez Claes Bang avec l'allure qu'il a, vous pouvez lui mettre des sandales avec un costume, il aura toujours une allure folle. Je ne voulais pas qu'on moque ce personnage, qu'on voit qu'il avait une certaine superbe. Alors il a d'autres codes, c'est ça qui est beau, c'est que c'est quelqu'un qui vient du Nord, c'est un Scandinave, on l'a dit. Donc il a totalement d'autres codes, et ce qui nous est familier, lui paraît incongru.
Ouais.
Mais voilà, moi sur ce qu'on disait sur Mitterrand, parce que je veux insister sur une chose, c'est que les grands travaux qu'il a promus, en plus, sont hyper avant-gardistes. C'est-à-dire qu'on prend la pyramide de Peille qu'on voit dans le film, on prend évidemment l'Arche. C'est des projets extrêmement ambitieux, extrêmement modernes. Et c'est vrai que le film se passe au début des années 80, mais par effet presque de contraste, il parle beaucoup d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait à l'époque une grâce budgétaire, il y avait aussi une vision politique, il y avait une volonté politique, autant de choses dont on est cruellement orphelin aujourd'hui.
Il y a deux hommes parmi beaucoup d'autres dans ce film très importants dans cette histoire. Donc il y a Jean-Louis Subilo, qui est l'urbaniste et très proche du président, qui est incarné par Xavier Dolan, et puis l'architecte Paul Andreu, c'est Swann Arlo, maître d'œuvre, parce que sur ce projet, il n'y aura pas deux architectes, il n'y en aura qu'un. Un monument, c'est une affaire apparemment simple, ce cube, mais c'est très difficile à construire, et notamment ces nuages dans l'édifice.
Je veux des nuages pour relier les éléments.
Et ce sont ces nuages que vous voudriez faire en verre.
Je le veux léger, like crystal.
Cristallin.
Je veux qu'il flotte.
Alors dans ce cas, ça pourrait être de la fibre de verre ou de la toile aussi.
C'est l'autre possibilité.
Et vous les fixeriez comment? Sur pylône?
Non.
Je veux que le nuage flotte. Hein?
Bon, dans ce cas, il faut les suspendre.
Et je veux deux types de nuages pour créer la variation. Comme ça.
Moi, je comprends.
C'est un homme qui dit beaucoup « je veux ».
Oui, contrairement à Mitterrand.
C'est un ego...
Oui, c'est un homme qui dit « je veux ». Et puis, c'est, on voit là, c'est un poète. C'est-à-dire que la contradiction de Spreckelsen, c'est qu'il a des idées merveilleuses. Il veut des nuages qui flottent. Ouais. On est tous attachés à ça. C'est vrai que c'est une merveille au milieu de ce, ce cube qui est tout en angle. Mais le principe de réalité, il s'est pas tout à fait, il s'en est pas tout à fait préoccupé. Et même, il fait un peu fi de ça, ce qu'il va le perdre.
Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les verres collés, qui est une grande affaire auquel vous consacrez beaucoup de pages, Laurence Cossier, parce qu'il ne se rend pas compte que c'est une méthode de collage qui est interdite en France. En fait, il veut rien savoir.
La technique ne l'intéresse pas.
Non.
La technique ne l'intéresse pas du tout. C'est un artiste. Il dessine génialement, d'ailleurs. Oui. On trouve en ligne quelques reproductions de ses dessins. C'est un grand, grand dessinateur. Et je ne me remets pas que Madame von Spreckelsen ne m'ait jamais laissé consulter le journal qu'il a tenu toute sa vie d'adulte, journal illustré. Donc c'est un grand artiste. Alors c'est sa gloire. Hein. Sa gloire, c'est sa folie, sa radicalité. Il ne veut pas qu'on attente en quoi que ce soit à sa vision. Bon, bien sûr, il s'inscrit en porte-à-faux contre le réel, rien que ça.
Par exemple, sur les piliers, il dit, je sais pas comment il veut les construire de base, il dit, on lui dit personne ne les verra, il dit, si Dieu les verra.
Oui, alors les piliers sont très beaux. Les piliers sont enfouis au sous-sol. Hein.
Ouais.
On y a d'ailleurs accès quand on est très très bien introduit, mais le commun des mortels ne les voit pas. Donc il se trouve que ces piliers ne sont pas assez résistants pour supporter l'arche. Détail quand même. Alors les ingénieurs de chez Bouygues, etc., disent tout de suite, non, il faut les renforcer, il faut qu'ils soient plus larges, plus trapus. Quand il apprend ça, il fait une maladie. Il n'en est pas question, on ne touche pas la forme des piliers, qui est très belle. Et tout le monde lui dit, mais on ne les verra pas, les piliers. Et il répond, Dieu les verra.
Ouais.
Et c'est vrai, ça, c'est vrai, ça m'a été rapporté de plusieurs côtés. Et c'est très, très emblématique du personnage.
Vous l'évoquiez, il y a l'affaire du marbre, donc, qu'il va absolument récupérer de Carrare. Il y a toute une scène de visite à Carrare. Et après, il est très malin, il rapporte un morceau de marbre au président.
Celui-ci est très beau.
Ce morceau vient de Carrare.
Il a une sensualité qui n'appartient qu'à l'Italie. Il est rose, n'est-ce pas?
Non, il est blanc comme la neige, mais dans la lumière du soir, il sera rose. Ce sont les nitrates.
Oh, c'est très beau. Les veines sont parfaites.
C'est le même marbre que la Pietà de Michel-Ange.
Oui, je l'avais remarqué.
Je veux dire, il vient de la même carrière.
Oui, bien sûr, je m'en doutais.
Et les navires sont serrés.
C'est la beauté de ce marbre.
L'autre morceau, un moine de nitrate, il vient de Reims, dans le Flandre.
Ouais, prenons celui-ci. Il est d'une grande pureté et c'est exactement la teinte que nous voulions. D'une carrière à l'autre, les nuances sont parfois sensibles.
Très bien. C'est le meilleur choix, je crois. Si vous permettez, monsieur le président, je vous fais cadeau.
Il est difficile de résister au charme de l'Italie. Vous ne trouvez pas?
Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce morceau de marbre, Laura Adler, dans le bureau de François Mitterrand.
Ben, je ne m'en souviens pas, en
non.
tout cas. Non,
il y avait
non
un...
mais c'est vrai qu'avec les autres architectes, il ouais. a eu exactement la même attitude. C'est-à-dire qu'il s'occupait de tout.
Ouais.
Et il venait faire des visites de chantier extrêmement souvent. Et le plus souvent, c'était à l'impromptu. Donc, personne n'était prévenu. Mais l'histoire du marbre ne m'étonne pas du tout.
On voit effectivement une visite de chantier de François Mitterrand dans le film, où il vient tester le marbre in situ.
Et ce chantier reconstitué, comment vous avez fait alors?
Bah, c'était un des grands défis du film. Moi, je voulais absolument qu'on voit le chantier et qu'on le voit dans son gigantisme. Il y avait un enjeu d'échelle parce que Spreckelsen, il avait construit que des chapelles, quatre chapelles et sa maison, et c'est tout. Il était professeur d'architecture dans son pays. Donc, il avait construit des choses qui étaient vraiment à échelle humaine. On voit une chapelle, elle est très belle dans le film, mais c'est vraiment un écrin artisanal, on va dire. Donc là, c'est quelqu'un qui est pris de vertige devant l'immensité de son truc, et puis cette arche qui émerge progressivement au long du film, c'est comme un personnage écrasant qui voit le jour. Donc il fallait vraiment qu'on puisse avoir ces plans larges. On n'est pas un blockbuster, ça reste un film indépendant qui fait avec des moyens indépendants. On ne pouvait pas construire à cette échelle-là, donc il a fallu trouver une parade que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu venir, mais c'est en travaillant avec la fille en charge des effets spéciaux qui s'appelle Liz Fisher que l'idée est venue. Je lui montrais souvent des photos en lui disant « voilà, j'aime bien ça, comment on peut faire ça ?» Je lui montrais la passerelle, je lui montrais... Puis à un moment, elle m'a dit « mais écoute, si on décide que cette photographie, c'est un plan du film, parce que la photographie, l'arche a été ultra documentée, donc il y avait beaucoup d'images, dont certaines qui étaient en qualité parfaite. Si cette photographie devient un plan du film et qu'on met nos petits personnages dans l'image, moi, je peux animer l'image, et ça devient un plan du film. Et donc, c'était ça, le parti pris. C'était de faire à l'inverse de ce qu'on fait habituellement. On est parti, nous, d'images photographiques existantes, et on les a animées. Mmh. Et c'est merveilleux, parce que d'un seul coup, j'avais une matière qui était extrêmement riche, j'avais une matière qui était ancrée dans le réel, et j'ai pu mettre ma fiction là-dedans.
Mmh. Laure Adler, vous êtes allée sur le chantier de la Défense ? Ou sur d'autres chantiers, d'ailleurs ?
Non, moi, je suis arrivée après.
Ouais. Mmh.
Et donc, je suis arrivée au moment où c'était terminé.
Oui.
Et tout le problème que vous développez merveilleusement bien à l'intérieur de votre film, c'est un problème d'inscription, d'un rappel historique et politique que voulait Mitterrand dans l'axe de l'Arc de Triomphe, du Louvre. Ouais. N'oublions pas le contexte, c'est-à-dire qu'il y avait aussi le projet du Grand Louvre avec Peille, la pyramide,
oui,
etc.
Donc, dans une séquence,
il y avait un projet d'ensemble de la part de Mitterrand. D'un côté, les quais, ça c'est moins réussi, hein, l'Institut du Monde Arabe, le ministère de Bercy, etc., etc. Même si Lima reste encore un bâtiment magnifique quand on passe devant. Ouais. Mais l'autre projet de Mitterrand, c'était ça. Ouais. C'était cette espèce de grand parallèle que chacun d'entre nous, Français ou étrangers, pouvions embrasser d'un regard. Ce que vous montrez à un moment dans votre film, Stéphane, c'est-à-dire... Ouais. On va jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et on rappelle cet axe principal, entre guillemets, du pouvoir. Et ça, il allait effectivement souvent le voir. Et c'est vrai que l'Arche de la Défense... Alors, je crois savoir qu'aujourd'hui, l'Arche de la Défense, c'est un endroit qui a été récupéré par des assurances, c'est un endroit commercial.
C'est surtout un endroit qui est vide, malheureusement, parce qu'il y a des bureaux des deux côtés. D'un côté, il y a le ministère de la Transition écologique. De l'autre côté, il y a des bureaux d'assurance, donc dans les deux pieds. Et puis, il y a le fameux toit qui est au-dessus. Et ça, ce toit, c'est des espaces d'exposition qui sont magnifiques. C'est immense, c'est que des matériaux extrêmement nobles. Et puis, il y a une terrasse au-dessus du toit qui domine tout l'Ouest parisien et à 360. Et malheureusement, le toit est interdit au public, est fermé. Et là, on peut que le regretter, parce que je pense qu'on manque de liens affectifs à ce bâtiment et aussi à ce quartier.
Parce que c'est dommage, parce que c'est très, très beau.
Vous mettez une école de danse là.
Il suffit pas de le voir de loin.
Ben d'ailleurs, quand on sort du film, on n'a qu'une envie, c'est d'aller à la Défense, voir si c'est ce qu'on a vu et bien ce qu'on a vu. Mais Laure Adler, dans les scènes avec Mitterrand, on a l'impression que Mitterrand a tout le temps du monde. C'est ça qui est très drôle. Vous disiez, dans votre livre, vous écrivez qu'il n'avait pas de montre, il n'y avait pas de pendule.
Non, il n'avait jamais de montre, tout le monde le sait.
Souffrait de mon retard en permanence.
Non, pas forcément.
Oui,
non. Enfin, moi, mon témoignage. Bon, non, il arrivait à son bureau généralement pas avant 11h. Et quand on lui demandait pourquoi il arrivait seulement à 11h, il disait parce que j'ai des choses très importantes à faire, il faut que je lise. Eh bien, écoutez, je ne trouve pas ça si mal, moi, qu'un président de la République passe toutes ses matinées avant d'arriver au bureau. Y compris quand il y avait des moments de crise internationale extrêmement graves. Alors évidemment, tout le monde dit qu'il y avait une cour autour de Mitterrand.
Oui.
Moi, j'étais extrêmement jalousée de la part de mes camarades qui étaient bien plus gradés que moi, comme les conseillers diplomatiques, les conseillers internationaux, les conseillers économiques, les conseillers budgétaires. J'étais la toute petite souris conseillère culture. Mais j'avais... un lien particulier à Mitterrand parce que je le voyais tout le temps, ce qui n'était pas le cas des autres conseillers avec qui il fonctionnait par fiche, par retour de courrier, etc., etc., parce qu'il voulait savoir, notamment sur les grands travaux, le déroulement. Il y a eu des grands travaux qui ont été très polémiques, comme vous le savez, l'histoire de la Bibliothèque de France, qui a agité beaucoup le monde intellectuel, et peut-être à juste titre. Il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de dialogues, etc. Mais par contre, j'ai pas l'impression qu'il y avait une cour, moi. Il y avait un staff, bon, on était 3-4, le secrétaire d'État aux grands travaux, Émile Biasini, bien sûr, quelqu'un qui a une importance considérable, qui n'apparaît pas dans votre film, ou peut-être un tout petit peu à un moment, c'est Jacques Lang,
oui,
qui était,
oui,
ministre de la Culture.
On ne voit pas Jacques Lang.
Il a été dépossédé, effectivement, ouais, bah oui, matériellement, des responsabilités budgétaires.
Et il n'a pas travaillé, il se trouve, sur l'art. Ce n'était pas un de ses sujets, donc à un moment donné. Mais là où je vous rejoins, ou pour compléter ce que vous dites, moi, l'impression que j'ai eue des témoignages que j'ai recueillis, et notamment pour avoir parlé avec Jean-Louis Subilo, qui travaillait à la maîtrise d'ouvrage, c'est que tous ceux qui travaillaient auprès de Mitterrand sur ces sujets-là étaient surtout profondément engagés et investis dans ce qu'ils faisaient. Il y avait un élan collectif. Mitterrand, il arrivait en disant « on va changer la vie ». Il a quand même réuni des gens qui croyaient dans ça. Il n'y avait aucun cynisme chez eux. Ce n'était pas des jeux de courtisans ou d'ambitieux. C'était vraiment aussi et avant tout des personnes qui voulaient à tout prix que les projets voient le jour, se concrétisent et qui croyaient en cela.
Gros écho des personnes avec des compétences techniques très reconnues. Ouais.
Gros obstacle en 1986, c'est bien la cohabitation, bien sûr.
Nous avons rendez-vous avec Juppé maintenant, et il a laissé entendre que le SICOM serait dissous.
Qui est Juppé ?
Nouveau ministre du budget.
Et que dit le président ?
Il ne peut plus rien dire.
Il n'est plus président ?
Si, mais il ne décide plus de rien. Il doit désormais composer avec une assemblée nationale qui a changé de couleur politique. C'est ce qu'on appelle la cohabitation.
Je ne comprends pas. Qui dirige ?
Le président est de gauche, mais désormais tout son gouvernement est à droite.
Mais Subilon, le CUP n'est ni de droite ni de gauche. Le CUP est pour tout le monde. Tout le monde.
Mais le CUP coûte cher. Et la droite ne parle que de coupes budgétaires et de rigueur.
Bon, il y a une bataille politico-financière d'une violence inimaginable, Laurence Cossé. Sprecalsen va finir par démissionner, ce qui était très rare à l'époque par rapport à des grands travaux. C'est presque unique au monde.
Unique.
Et mourir après quelques mois, après une visite à la Défense. Très belle scène du film. On révèle rien parce qu'on connaît l'histoire.
Alors, avant de vous répondre, je dis un mot quand même du film. Plusieurs mots du film. Le film est très très bien fait, très, très virtuose, très très brillant. Enfin, les acteurs sont extraordinaires. Franchement, tous. Il y a un personnage imaginé par Stéphane de Moustier, qui est la femme de Sprecalsen, qui n'est pas du tout comme ça dans la réalité, et qui est magnifiquement jouée par cette Babette Knudsen. Klaus Bang est remarquable. Il incarne Sprecalsen, il a ses mimiques. Michel Faux, qui joue le président de la République, est extraordinaire.
Swann Arlo,
Michel Lesco, que je trouve formidable.
Xavier Dolan.
Le méchant de l'histoire, voilà. Ouais. C'est vraiment très beau. C'est très drôle, hein. Pendant qu'était diffusé les enregistrements des scènes du film, on riait beaucoup, les salles rient beaucoup. Ouais. Donc c'est pas du tout un film austère, c'est un film très vivant, très pathétique, très poignant.
Le sujet peut paraître poussoir, mais en fait, l'histoire est trépidante. Comme je disais alors, il y a quelque chose de burlesque là-dedans qui rend les choses tragicomiques.
Et ce film s'appelle L'inconnu de la Grande Arche, il sort mercredi prochain, tandis que votre livre vous s'appelle L'inconnu de la Grande Arche. La Grande Arche. Et pas Mort d'un architecte.
Hélas.
On se retrouve après Sam Sauvage pour parler des sorties de la semaine. Merci, merci.
C'est la fin du monde. On l'a pas vu venir. Accordez-nous une seconde avant d'atterrir. La nuit nous guette. Elle nous regarde dans ses muettes. On est jeunes, ils sont bêtes. Et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulés dans le pub, on sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas de danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. C'est pas moi qui le dis, à nous les tragédies. T'entends cette mélodie, regarde devant, au-dessus des incendies, le ciel qui nous sourit. et tous ensemble on crie. Et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulés dans le pub, on sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas de danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
On va commencer cette revue des films de mercredi, Laurent, par le 33e film du cinéaste coréen Hong Sang-soo, Ce que nature te dit. Dong-hwa, un jeune poète de Séoul, conduit sa petite amie chez ses parents. Émerveillé par la beauté de leur maison, il y rencontre son père qui l'invite à rester. Au cours d'une journée et d'une nuit, il fait la connaissance de toute la famille et la nature de chacun se révèle. C'est un début plutôt doux, une famille accueillante et un dîner où tout le vernis va craquer. Sur fond de lutte des classes, le jeune poète a bu et ne supporte pas la critique. Est-il vraiment poète ou fils de famille en mal de créativité, mystère.
Oui, ce sera le premier poète de la matinée, oui. Mais il y en aura un autre.
Oui.
Dans le film précédent de Hong Sang-soo, tout était flou, mais volontairement. L'image était floue volontairement, ça s'appelle In Water, du début jusqu'à la fin. Là, le net est fait, si je puis dire, le point est fait. Il y a quelques effets de flou, mais on n'en tirera pas une théorie, mais reste que les personnages d'Hong Sang-soo demeurent, eux, avec une certaine constance dans ce flou-là, et qui est une sorte de vague à l'âme qu'ils affectionnent et que lui affectionne, comme ce poète, effectivement héros du film, qui se frotte à sa peu bienveillante belle famille, et il y a, comme toujours chez ce cinéaste, une grâce, un charme qui opère, bien malin, qui peut le disséquer et l'analyser de façon rationnel, mais en tous les cas, une fois de plus, ça fonctionne.
Un autre poète en Colombie, du cinéaste donc Simon Mesa Soto, Oscar Restrepo, poète en manque de reconnaissance, mène une existence solitaire, marquée par les désillusions. Sa rencontre avec Yurladi, une adolescente d'un milieu populaire possédant un véritable talent d'écriture, va bouleverser le cours de sa vie entre drame et comédie. Un loser au cœur pur, anti-héros, alcoolique, immature, suicidaire, bref, un idéaliste, incarné par un professionnel instite dans la vie. Vous en parlez, Laurent, et après on va laisser la parole à Laure Adler et Stéphane de Moustier qui ont adoré le film.
Mais bien vite, les cahiers ont joliment titré un Bukowski à Medellin. C'est pas mal, hein. C'est un bon résumé de ce que c'est ce poète-là. Alors, il espère être Bukowski, bon, pas certain qu'il le soit vraiment. C'est le deuxième long-métrage d'un cinéaste qu'on avait découvert à Cannes en 2021 avec Amparo, et effectivement ce personnage de poète mais surtout impliqué dans la Colombie actuelle, et avec une très belle réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'art, qu'est-ce que c'est que l'artiste dans nos sociétés. Mais Laure Adler, vous avez vu, comme c'est Van de Moustier.
Oui, je l'ai vu hier soir. J'ai été absolument frappée par la liberté de ce film. C'est tout sauf du cinéma, si j'ose dire.
Oh là.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hyper-scénarisation. Il y a un scénario qui va et qui avance à toute vitesse comme un cheval sauvage dans un désert. Il y a une interprétation remarquable et l'histoire est absolument extraordinaire, puisque c'est l'histoire d'un type qui, jeune, à l'âge de 20 ans, a été reconnu par ses pairs, PAIRS, comme un créateur, comme un véritable poète, et qui, au fil du temps, a perdu sa créativité, s'est enfoncé dans l'alcool, a rompu avec sa femme, a rompu avec sa fille, et finalement n'a aucun horizon devant lui. Moi, j'ai pensé, alors Bukowski apparaît effectivement à l'intérieur du film par des couvertures de bouquins, mais moi j'ai pensé, Stéphane, je ne sais pas si vous partagez mon avis, j'ai pensé à John Cassavetes quand j'ai vu le film et que j'ai été ébloui par cette espèce de montage, d'histoire d'amour aussi, de réflexion sociopolitique.
Moi, je l'ai vu aussi hier soir, on l'a pas vu ensemble, mais je l'ai vu en même temps.
Peut-être
qu'on l'a vu ensemble, c'est pour ça que c'est merveilleux d'aller dans les salles de cinéma.
Ouais.
Je l'ai vu hier soir, et moi, ce qui m'a frappé, c'est que ça ne ressemble à aucun film que j'ai jamais vu.
Ouais.
C'est un événement. Et puis, c'est quand même un sacré pari de dire on va faire un film sur un poète et donc sur la poésie. Et quand il y a parfois des moments où la poésie surgit, on l'attend au tournant en se disant bon bah là, et effectivement c'est sublime. Mais il faut le voir pour comprendre parce que c'est indescriptible, ça ne ressemble à rien qu'on ne connaisse.
C'est très généreux un cinéaste qui parle d'un autre film en plus très proche de lui dans l'actualité. Un autre film, On Falling, autrement dit En Tombant, c'est un premier film d'une réalisatrice portugaise qui s'appelle Laura Carreira et c'est autour de Aurora, émigrée portugaise. En Écosse, elle est piqueuse, préparatrice de commandes dans un entrepôt au bord de l'abîme de la paupérisation. Et c'est un film, c'est l'envers du décor donc de l'ultra-libéralisme, qui est coproduit par Ken Loach.
C'est évident que la réalisatrice se situe dans cette lignée loachienne-là, et on ne peut pas lui en faire le reproche. Du coup, c'est une plongée absolument réaliste, presque documentaire, dans cet esclavage moderne où tout est automatisé. C'est, dit-on un moment dans le film, une folie méthodique. Je trouve que cette façon de caractériser notre réel ultra-libéral est assez bien vue dans le domaine de l'entreprise. Bref, la cinéaste nous tend un miroir absolument glaçant.
Une vie ordinaire de Alexander Kuznetsov, alors sortie du centre psychiatrique après 15 années où elles avaient été injustement placées, Katia et Lulia, deux jeunes femmes russes, accèdent enfin à une vie indépendante, mais dans une Russie qui a changé d'un asile à l'autre, la nouvelle idéologie nationaliste les emporte, Laurent.
Oui, je ne suis pas sûr que les choses aient beaucoup changé depuis effectivement l'URSS psychiatrique et la Russie de Poutine qui enferme autant les gens dans une boîte et dans une société absolument verrouillée. Le documentaire c'est d'autant plus saisissant que le cinéaste suit ces deux jeunes femmes de film en film et là, elles sortent, alors on dit « Ah, ça y est, c'est la liberté ». Eh bien, la liberté dans la Russie de Poutine, elle est très très limitée.
On rappelle la sortie de L'étranger de François Ozon, largement évoquée la semaine dernière avec ses deux interprètes, mais L'étranger pour l'œil contemporain, distancié et politique de Ozon, un film traversé par un acteur remarquable, Benjamin Voisin.
La femme c'est plus réussi que Visconti, mais c'est une proposition.
La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat, pareil, inspiré de l'affaire Bettencourt, source d'un matériau ultra-romanesque, des dialogues irrésistibles et des acteurs virtuoses.
Absolument, c'est un formidable jeu de massacre.
Ça n'aurait pas pu être un film, alors c'est une série dont le format, 8 épisodes, sied parfaitement au propos, à ses thèmes, ses personnages et sa complexité, Des Vivants, de Jean-Xavier de Lestrade, déjà disponible sur le site France 2, l'histoire de ces 7 otages rescapés du Bataclan qui se sont ensuite reconstruits ensemble. Extraordinaire, minutieux et respectueux travail d'enquête auprès d'eux. Comment vivre après la résurgence des images, le comportement de la famille, des enfants, des proches, l'incompréhension, les séances de psy au travail, la rencontre avec ceux qui les ont sauvés, l'indemnisation, où il faut de nouveau raconter les commémorations et notamment aussi l'attentat de Nice qui réveille ses douleurs jusqu'au jugement, justement. Je vois là, dit Lestrade, je vois là une occasion d'entrer dans ces images qui nous hantent pour ne plus seulement les subir, j'ajouterais, et ressentir l'incroyable solidarité en de telles circonstances. Ça s'appelle Des Vivants, Lestrade est sur, et c'est sur France 2.
Oui, et sur Arte, vous irez voir aussi Cavalier seul de Yves Geland sur Alain Cavalier. C'est un formidable documentaire qui se passe de l'été 2019 à 2024, où le filmeur, puisqu'il s'appelle comme ça, Cavalier, a accepté qu'un autre filmeur le filme. 5 visites au total, merveilleuses, dans ce qui s'appelle le gourbi, c'est lui-même qui le dit, d'Alain Cavalier, c'est-à-dire son bureau, où il laisse de temps en temps au cinéaste Geland des petits mots comme celui-là, vive vous, la République et les pommes de terre frites. Ça, c'est tout à ma cavalier.
3 festivals, Laurent. D'abord à Sarlat.
Oui, le festival de Sarlat, festival qui existe depuis de longues années, du 4 au 8 novembre. Il est très axé sur les lycéens, notamment. On pourra y découvrir en avant-première Love Me Tender, par exemple, des éclairages sur les films de Valérie D'Angeli, Rebecca Zlotowski et beaucoup d'autres encore. Et puis, alors, tout autre lieu, vous irez à Arras pour la 26e édition du Arras Film Festival du 7 au 16 novembre. Avec un certain Stéphane de Moustier en président du jury, voilà, c'est pas un hasard du tout. Une centaine de longs métrages, 27 avant-premières, et puis la présence aussi de Léa Drucker et de Lucas Bellevaux. Enfin, on redescend, on descend dans le sud, 13e Festival International du Film de Muret, près de Toulouse, du 9 au 16 novembre. Là, c'est Philippe Faucon qui en sera l'invité d'honneur.
3 cadeaux maintenant pour nos 3 invités.
3 cadeaux. D'abord pour, Laura Adler, on vous offre Striptease Intégrale. Ce sont des nouveaux volets cinéma de striptease. 5 volets absolument géniaux. Évidemment, ils se promènent dans des lieux où il ne faut pas aller, comme une salle de dissection. Mais c'est comme ça, striptease. C'est chez Blackout et c'est vraiment un très beau film. On a du temps, c'est bien, parce qu'on va offrir à Laurence Cosset un film de Wim Wenders, des débuts de Wim Wenders, un peu l'angoisse du gardien de but au moment du pénalty.
C'est Peter un film... Hanke.
Voilà, oui, c'est tout, Laura Bert. C'est le début de la collaboration entre Wenders et Peter Hanke pour décrire cet absolu anti-héros criminel. Et c'est Wendersien au maximum. Il y a d'ailleurs un très très bel entretien en bonus avec Wenders. C'est édité par Carlotta.
Quel beau titre.
Ouais, quel beau titre. Merveilleux. Hein. Mais
qui a été repris dans
quel grand cinéaste. Ouais. Quelle passion cinéaste. Pour Wenders.
Ah, oui. Bah, alors, on est très heureux de l'offrir.
Vous avez vu le dernier au Japon?
Non, mais non. Je voulais y aller. Bah, je vais y aller.
Bah, oui, il faut. Alors pour vous, Stéphane de Moustier, on a pensé
il en
que...
a deux, lui.
Non, c'est un petit peu vous êtes jalouse, hein, quand même.
Oui. Bon.
Laure, enfin.
On va peut-être faire du troc tout à l'heure.
Voilà, le locataire de Roman Polanski qui sort dans une version ultra collector, Blu-ray, vraiment très très bien capé. C'est chez Carlotta, c'est deux, et évidemment avec Roman Polanski et Isabelle Adjani et Shelley Winters. C'est après Répulsion et Rosemary's Baby, une sorte de trilogie kafkaïenne sidérante qui nous plonge évidemment dans l'absolu mental de son héros bien malade, si on peut dire.
Merci beaucoup, je suis ravi. Je l'ai déjà vu, mais je suis content d'avoir une telle version.
Il y a une très belle édition avec le dossier de presse de l'époque, et ça, c'est toujours amusant de voir ce qu'on disait à l'époque.
Laure Adler, vous sortez un livre qui s'appelle Vierges, histoires et tabous.
Oui, il faut le dire comme ça.
C'est au pluriel, chez Albin Michel. Vous êtes fasciné par les vierges.
Oui, depuis ma haute enfance, j'ai été élevée dans une éducation catholique et effectivement, tous les matins et tous les soirs, je remettais ma vie entre les mains de la Vierge. Mais c'est une Vierge moderne et post-moderne, puisque le livre commence par Madonna et continue par Beyoncé et par des artistes comme Bansky ou Kiki Smith. Cette thématique de la Vierge, bien sûr, elle s'illustre par les plus grands génies de la Renaissance, mais elle est aussi un thème aujourd'hui très très prolifique des jeunes artistes ultra branchés. Donc qu'est-ce que ça signifie la virginité aujourd'hui? Ce n'est qu'une chose qui n'arrive qu'au sexe féminin, ouais. C'est bizarre.
Ouais. Merci Laure Adler d'avoir nous avoir raconté les coulisses de l'Élysée au moment de ces grands travaux, vraiment. Merci Laurence Cosset pour votre livre, notamment aussi La Grande Arche et Folio désormais. Et merci Stéphane de Moustier pour L'Inconnu de la Grande Arche.
Il est
film
en salle.
Sort
bientôt.
Mercredi prochain.
Ouais.
Au revoir. Il faut remercier bien sûr l'équipe, notre équipe, Valérie Ayestaraï à la réalisation, Benjamin Ducy, mais oui, je confonds avec Benjamin Voisin. Et oui, Olivier Rieu à la programmation musicale.
Merci à eux. On aura tout vu sur France Inter.
Au revoir.